présenter ces petits beer stacks qui a été l'officier 13 dans les années 70 au bureau d'Oxfam à Oxford, que j'ai rencontré à Oxford aussi. Alors, elle a amené à Oxfam des traditions légales et commerciales. Elle était née aux Indes d'un père qui était avocat colonial. La formation des avocats britanniques aux Indes était incroyable. Ils passaient 2 ans à se promener d'une ville à l'autre, d'une communauté à l'autre, pour apprendre les traditions locales, légales. Alors, il y avait un savoir du terrain aux Indes qui était incroyable, puis sa fille l'a suivi. Et puis, quand elle s'est mariée, elle a marié un entrepreneur puis un industriel britannique basé aux Indes. Alors, elle faisait partie d'un réseau de légal et commercial. Et quand la famine a commencé à Bihar en 1963, on a fait appel à ses services et elle s'est promenée entre les Indes puis Oxford au fil du travail de son mari, mais aussi éventuellement autonome, d'une façon autonome. Alors, elle s'est occupée de produire des posters, des articles qui étaient plus scientifiques, comme dans la revue Disasters, mais aussi des articles et des communiqués de presse à un moment où, en Angleterre, Oxfam occupait une place incroyable chez les journalistes. Quand on voulait savoir ce qui se passait en Guinée ou au Nigeria, souvent on appelait Oxfam, on leur demandait leur communiqué de presse. Ils avaient une intelligence de la politique en Amérique latine, puis en Afrique, puis en Asie, qui était unique. Et elle était au centre de tout ça. À la fin des années 60, elle a produit un film pour la télévision, One Hour Before Midnight, qui montrait l'urgence des questions de la faim dans le monde. Et son film a ouvert la session sur l'alimentation aux Nations Unies, je pense en 1971. Son travail n'était pas seulement pour la presse écrite, mais aussi pour la télévision, et puis aussi pour l'éducation, un sujet que je n'aborde pas aujourd'hui, mais qui a fait l'objet d'une très belle thèse à l'Université McGill de la part d'une des membres de notre collectif, Marie-Louise Hermiche. La prochaine personne que je voudrais vous présenter, c'est Lynn Tenkate, que j'ai rencontrée chez elle aussi à Oxford, qui a été une des fondatrices du réseau des magasins d'Oxfam, de choses usagées. Il y en a encore des centaines au Royaume-Uni. Et son travail, qui était un travail vraiment de commerce puis d'entrepreneur, elle l'avait appris dans l'entreprise de son mari, dont elle était la secrétaire. Et elle a vite fait de transférer ces talents-là qu'elle avait en dans commerciaux, mais aussi de publicité, pour établir le réseau des magasins d'Oxfam. Et puis, ça vous montre un peu comment la levée de fonds à l'époque de Tenkate, dans les années 60, était décentralisée, très populaire. On est bien loin des levées de fonds qu'Oxfam fait aujourd'hui au Canada. Elle a aussi tranquillement aidé à la création du réseau de Fair Trade, où on allait chercher des produits dans les communautés qu'Oxfam aidait en Amérique latine, en Asie, en Afrique. On les ramenait en Grande-Bretagne, puis on les vendait dans les magasins d'Oxfam. C'est le début du mouvement Fair Trade dont Oxfam s'attribue fièrement la parenté. Tenkate a été envoyée au Canada pendant 10 mois pour essayer de repérer les endroits où il y avait des communautés solides et intéressées qui pourraient fournir la base d'un Oxfam au Canada. Et c'était complètement décentralisé. Elle a visité des douzaines de communautés, elle a donné des entrevues dans les journaux, elle a donné des entrevues dans les stations de radio, elle a organisé des assemblées communautaires dans des sous-sols d'églises, elle a même fait partie des sermons le dimanche dans des églises canadiennes, elle a visité des départements, elle est venue dans le département d'histoire, on a encore les signatures de mes collègues. Comme ça, elle a fait un rapport, elle faisait des rapports mensuels pour dire à Oxfam, en Angleterre, où et quand Oxfam pourrait commencer des chapitres au Canada. Encore là, ce qu'elle a fait en prenant le train, en utilisant la radio, en utilisant les rapports écrits qu'elle a envoyés à Londres, en utilisant la presse écrite, les assemblées communautaires, ça vous montre un peu le genre de réseau d'information qui appartenait aussi au système qu'Elisabeth Stamp avait mis en place à Oxford. La personne qui, dont je voulais parler après, c'est Reggie Norton, que j'ai rencontré aussi à Oxford, où il est à la retraite. Lui, il était né à Gibraltar et il était registraire à Gibraltar. Alors, quand on se mariait à Gibraltar, c'était Reggie Norton, puis avant lui, son père qui signait les papiers. Alors, la question que j'ai posée, c'est « Did you marry John Lennon? » Mais il était déjà parti. Alors, mais il dit « I know which book it is, but it's not me. » Il a, lui aussi, par goût de s'impliquer dans des causes qui étaient plus importantes, suivi ses convictions politiques. Il est allé en Amérique latine où il a suivi des collègues impliqués dans la théologie de la libération, puis les aventures pédagogiques inspirées des écrits de Paulo Freire. Il avait déjà été leveur de fonds pour Oxfam à Gibraltar, puis il a laissé son emploi d'avocat là-bas pour aller travailler sur le terrain. Et là, c'est ses réseaux catholiques qu'il avait déjà de sympathiques à la théologie de la libération, ses réseaux aussi de bureaucrates qu'il a mis en place pour être capable d'intervenir dans des situations d'urgence, puis de mettre en place des réseaux de renseignement pour Oxfam dans le tout début des interventions d'Oxfam en Amérique latine. Puis très tôt, il a aussi compté sur des réseaux d'ingénieurs locaux qui étaient sympathiques à ses idéaux politiques. La personne ensuite que je voulais vous faire montrer, c'est Bill Jackson. Sur cette photo-là, qui est une photo de tous les directeurs internationaux d'Oxfam, il est ici. Et ça, c'est Elisabeth Stan qu'on a vue autrefois. Ça fait partie des archives d'Oxfam. C'est une photo qui a été prise en 64 quand tous les gens impliqués dans les aventures internationales d'Oxfam, qui dirigeaient d'une façon assez centralisée, à partir d'Oxford, les différentes aventures se sont rencontrées pour planifier une nouvelle ère d'implication internationale. Alors, ce qu'on voulait faire avec des gens comme Jackson puis Henry Fletcher, qui va aller au Canada plus tard, c'est d'essayer d'avoir des Oxfam en Belgique, en Australie, au Canada, pour lever des fonds au nord, pour aider les gens au sud. Puis d'utiliser le système d'Elisabeth Stan pour envoyer les renseignements sur les projets du Sud aux gens du Nord, mais en passant par Oxford. Éventuellement, le même système va continuer, mais Oxfam Canada va avoir ses propres case files sans avoir à passer par Oxfam ou en envoyant des copies à Oxfam, mais en travaillant directement avec des régions du Sud. La prochaine personne, j'en ai déjà parlé un peu, c'est Henry Fletcher, qui était un militaire. Il était là pendant l'affaire du canal de Suez, un militaire désillusionné, qui est devenu pacifiste, qui a laissé son travail. Il était aussi ingénieur, un ingénieur militaire, qui a été travaillé dans l'ingénierie pendant quelques années et qui s'est impliqué dans les campagnes des Nations Unies à la fin des années 50 contre la faim et pour les réfugiés. Il a fait ça comme Norton, de façon bénévole, puis éventuellement, son travail bénévole est devenu son travail à temps complet. Il a été embauché pour devenir un des officiers internationaux d'Oxfam à Oxford. Et il avait organisé dans son petit village autour de l'entreprise d'ingénierie où il travaillait une des marches pour lever des fonds pour Oxfam. Puis c'est sa petite aventure dans sa communauté qui a mené aux grandes marches canadiennes, parce qu'il est venu au Canada après, qui ont été très populaires, là, dont ma collègue a fait l'histoire. Mais c'est vraiment, il avait commencé ça dans sa petite communauté autour de son entreprise, où il était ingénieur avant de devenir directeur des affaires internationales d'Oxfam. Alors, une fois que Lynn Tenkate est revenue au Royaume-Uni, on a détaché Fletcher, qui a vraiment installé un Oxfam Canada, qui est resté directeur pendant 4 ans. Avant d'être un peu poussé par des Canadiens qui voulaient canadianiser et puis aussi démocratiser l'organisation, parce qu'il n'avait pas perdu sa façon militaire d'organiser Oxfam. Puis les travaux de Will sur Oxfam au Biafra, qui recoupent les travaux de Stéphanie, ont été supervisés. Ce que Will étudie, c'est Canary Relief. Fletcher faisait partie de cette mouvance-là, puis a utilisé ses réseaux d'Oxfam pour organiser ça. la prochaine personne que... OK, alors là, je voulais vous montrer, ça c'est ma partie plus sur les archives, avant de vous faire rencontrer d'autres membres. Les archives d'Oxford, quand je les ai consultées, ils étaient dans un petit coin d'un grand entrepôt au nord d'Oxford où on avait toutes les fournitures médicales. Alors, toutes les boîtes avec des pansements puis des kits de chirurgie sur le terrain étaient dans l'entrepôt. Puis là, dans le coin, c'était les archives d'Oxford. La dame qui était archiviste, elle pouvait ouvrir les archives seulement un jour ou deux. Puis on menaçait de s'en déposséder puis de ne plus employer une archiviste. Ils ont démoli la bibliothèque, il n'y avait plus de livres. Elle avait peur qu'on se départisse des documents. Puis elle a fait beaucoup de travail pour être capable d'avoir une subvention de la Lever Hume Foundation pour transférer tous les documents à la Bodleian Library d'Oxford. Oxford était très intéressé parce qu'ils n'ont pas d'archives du milieu du 20e siècle. Alors pour eux, ce n'est pas seulement une archive de l'aide humanitaire, c'est aussi une archive de la décolonisation ou une archive de la fin des années coloniales. Parce que les case files d'Elizabeth Stamm contiennent des documents, même des documents gouvernementaux, qu'on n'a plus en Guinée puis qu'on n'a plus au Biafra à cause des problèmes des archives là-bas. Alors c'est des archives fantastiques pour leurs étudiants. Et pour leurs professeurs puis leurs chercheurs en études du développement puis en études même locales, africaines, asiatiques ou américaines. Alors, c'est le catalogue qui a été mis en ligne l'année dernière et puis ils ont une série de blogs qui produisent les étudiants, les archivistes d'un mois à l'autre qui est très intéressante. Puis il y a certaines de mes illustrations qui viennent de ces blogs-là. Maintenant, on retourne aux gens que j'ai rencontrés, des traditions syndicales de circulation de l'information, puis des traditions de métier, avec Bill Hunt, qui est au coin là-bas, le directeur du dernier bureau régional, l'avant-dernier bureau régional. Non, l'avant-avant-dernier. Alors, le bureau de Saint-Jean a fermé, après ça, le bureau de Toronto a fermé, puis là, il reste juste le bureau de Victoria. J'ai rencontré Bill en 2013, et puis il m'a parlé avec ses collègues des traditions de pêcheurs, de solidarité entre pêcheurs de Terre-Neuve et puis de pêcheurs de l'Amérique latine, des traditions aussi de solidarité entre docteurs et entre infirmières. Alors, des syndicats, des organisations de docteurs, des syndicats d'infirmières, des syndicats de pêcheurs ont eu des mouvements de solidarité avec leurs équivalents en Afrique ou au Nicaragua ou dans d'autres parties de l'Amérique latine. Alors là, les réseaux d'information suivaient souvent des lignes professionnelles. C'est des savoirs communs entre infirmières de Terre-Neuve puis des infirmières d'Afrique du Sud, par exemple, qui ont permis la circulation de renseignements. C'est des échanges professionnels, puis c'est les vecteurs de mobilité des gens puis des renseignements qui sont les plus importants à Terre-Neuve dans les années 70 puis dans les années 80. Les autres genres de réseaux, on les rencontre avec Myriam Palacios, qui maintenant est la seule dans son bureau à Victoria à avoir un bureau régional. Bill l'a rencontré et l'a interviewé en personne. Moi, j'allais l'interviewer par téléphone. Myriam était elle-même une réfugiée du Guatemala. Et c'est un peu comme dans le cas de ce que Nassi fait, c'est vraiment des solidarités des diasporas qui organisent les solidarités entre Oxfam Canada puis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Myriam s'occupait sur la côte ouest de certains pays d'Amérique latine, puis sur la côte est, d'autres personnes s'occupaient d'autres communautés d'Amérique latine. Ils s'étaient divisés le continent. Et elle a amené des collègues et des amis musiciens se promener au Canada. Ça, c'est deux troupes. Et ça, c'est un des posters qui a été numérisé par la série de numérisation des archives locales de l'Université Memorial. Et ces musiciens-là se rappellent avec beaucoup de chaleur de leur tournée au Canada. Et pour leur propre carrière, ça a été aussi très important, en plus de contribuer à lever des fonds dans plusieurs communautés du Canada. C'est la maison d'Oxfam où j'ai rencontré Bill. C'est une maison qui avait existé pendant 25 ans. Puis quand je vous avais montré la diapositive de Norton avec les traditions religieuses, j'ai oublié de vous dire que la petite photo avec moi puis trois personnes, c'est les trois personnes qui ont fondé cette maison-là. c'est trois professeurs de Memorial qui ont acheté la maison. Puis trois semaines après que j'ai interviewé Bill, la maison a pris feu et elle a été complètement démolie. Alors, les archives qui restaient, les archives des années 80 sont à Bureau, ils ne sont pas archivés, mais ils ne sont pas catalogués, mais ils sont là. Les archives qui n'étaient pas encore là ont toutes brûlé. Ce qui reste de cette maison-là, c'est les photos qu'on a prises quand on était là, de documents, puis de ce qui était sur les murs. Alors, il y a beaucoup de notre travail en ce moment qui représente du sauvetage d'archives. Les traditions politiques de Meyer Brownstone sont d'autres vecteurs de renseignement. Meyer avait toutes sortes de réseaux socialistes, sociodémocrates qui lui ont servi à voyager dans les camps de réfugiés d'Amérique centrale puis dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ça, c'est un projet de collection de ces diapositives qu'on a fait avec l'archiviste de l'Université Carleton, où Meyer a été capable de commenter sur ces 800 diapositives qu'on a aussi numérisées. Ça, c'est pour essayer de parler de comment on collecte puis on essaie de ramasser les archives des réseaux humanitaires. Ça, notre réseau fait affaire avec ces gens-là puis on essaye avec eux d'être sûr que leurs archives sont conservées, de les aider à interviewer des gens, à mettre en valeur leur histoire sur leur propre site web. Puis ça, c'est le site web de notre réseau où on parle aussi, on met des ressources en commun. Et puis, pendant que je préparais ma communication, Yannick Gunn m'a écrit ce matin pour me dire « Are you using the web Wayback Machine? » J'ai dit « I want to do this. » And then he said « Well, send me it and I'll do something. » That was all this morning. I said « Well, be careful what you wish for. » And then he said « Send me an address. » And so, alors qu'il est, il est déjà probablement en train d'analyser mon site web. Mais ça va être merveilleux s'il y avait eu. Puis, je lui ai demandé aussi si on pouvait analyser Twitter, j'ai envoyé les Twitter d'Oxfam. Il dit, c'est plus compliqué, mais on va être capable de faire quelque chose. Fait que pour l'histoire récente avec laquelle j'ai commencé, j'espère être capable de travailler avec tout ça. Merci.